Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
La bulle immobilière. La bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff Morin.
Courtier immobilier.
Et son co-animateur
Kevin Filion.
À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La bulle immobilière.
The Alternative Radio. La station du Mont-Flair. La radio de Lévis.
La radio urbaine, c'est sérieux.
L'Alternative Radio.
La bulle immobilière. La bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff
Morin.
Courtier immobilier.
Et son co-animateur
Kevin Filion.
À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La bulle immobilière.
Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous vendons votre maison. J'ai l'honneur d'animer toujours l'émission La bulle immobilière avec mon acolyte Kevin. Comment ça va, Kevin?
Ça va super bien, toi, Jeff?
Ça va super bien. Écoute, ça va être une de nos meilleures entrevues.
On a des vedettes en studio aujourd'hui.
Exact. Puis ça va être tellement le fun aujourd'hui avec l'entrevue qu'on a. On va parler de sujets qu'on n'a pas eu l'opportunité de jaser à plusieurs niveaux, dont les loyers à prix modique, les loyers abordables. C'est quoi la différence? Il y a une tollée d'articles qui passent actuellement dans les journaux, etc.
Plus mêlant que les uns que les autres.
Exact. Puis on va avoir des gens qui se spécialisent dans ce créneau-là, qui vont venir discuter de leur expérience aussi avec nous. Tu sais qu'on est live samedi 11h à la bulle immobilière. Puis, c'est quoi la température, Kevin?
Présentement, très, très beau. Très ensoleillé, par contre, assez froid. Assez froid, moins 20.
C'est super cool. On reçoit aujourd'hui Mathieu Aubry et Brandon O'Down. J'espère que je n'ai pas manqué ton nom.
Non, c'est parfait.
Tout était cool. Merci les gars d'avoir accepté l'invitation pour venir à la bulle immobilière, parler de votre parcours, parler de vos différents projets, parce que des projets sur la table, il y en a un puis un autre. Puis en plus de ça, c'est que vous êtes des gens, tantôt on parlait de superstar, mais vous êtes des gens qui inspirent beaucoup d'autres investisseurs à vouloir augmenter les standards, la qualité, puis de faire en sorte qu'on arrive à offrir un produit de qualité. Un grand bravo pour votre succès. J'aimerais ça qu'avant qu'on commence de parler des divers sujets, que vous nous fassiez un peu la présentation de chacun. Ton parcours à toi, Mathieu, tu es courtier immobilier aussi?
Oui, je suis courtier immobilier spécialisé dans le multi, donc 5 logements et plus spécialement. J'ai mes licences depuis 2015, fait un tout petit peu de résidentiel au départ, mais la direction là, à prendre était le commercial multi-résidentiel 5 et plus. Je me spécialise dans l'optimisation. Tu vois, ce qui m'a amené un peu là, c'est ma belle famille. Ma belle famille était dans l'immobilier. J'ai eu un peu la piqûre par rapport à ça. La première propriété que j'ai acquise, ma maison, je l'ai refinancée assez rapidement. Il y avait une plus-value, une équité. Puis j'ai souhaité la placer le plus rapidement possible dans le plus gros que je pouvais aller chercher. Déposer des offres d'achat à Sherbrooke, à Trois-Rivières. Et puis finalement, j'ai abouti à Granby avec un 15 logements que j'ai commencé à optimiser. Moi, pendant ce temps-là, j'étais aux douanes. J'ai commencé comme étudiant pour payer mes études. Je faisais des études en urbanisme à la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal. Et puis, j'ai collé là, j'ai collé au gouvernement, fait que j'ai gravi les échelons, superviseur, cadre, ainsi de suite. Puis finalement, devenu un peu blasé de tout ça, j'ai changé mon fusil d'épaule, puis j'ai pris ma retraite là, de fonction fédérale pour m'investir là, dans l'immobilier. Là. Puis, tu vois, 2015, j'ai rencontré Brandon, puis on a commencé ensemble là, un partnership très intéressant, là.
Puis, c'est-tu le courtage qui t'a amené à faire des investissements ou c'est l'inverse? C'est tes propres investissements que tu t'es dit, bon, ben, je vais aller faire mon cours de courtier essentiellement pour toi ou ben, suite avec l'idée de le faire pour d'autres?
Ma belle famille disposait d'à peu près une centaine de portes, des immeubles de 12-24 portes.
Okay.
Initialement, utilisait un courtier résidentiel dans le domaine pour chacune des transactions. Puis, je me suis dit, je peux faire ça, moi. Puis, la commission avait l'air intéressante. Fait que pendant une formation de douane que j'avais à l'extérieur, je me suis clenché à peu près tous les volets là, de la formation OASIC à ce moment-là.
Une double formation.
Moi, je suis allé chercher ma licence là, en comme 6 mois à peu près. Là.
Okay.
Puis j'ai tout de suite commencé à opérer là-dedans. Puis j'ai vu une opportunité. Puis j'ai eu un malin plaisir là, à aller me chercher des parts de marché quand même assez facilement. Puis ça a super bien été.
Puis là, dans ton député, tu le fais encore pour des investisseurs en partie ou essentiellement
moins,
pour
de
toi?
De moins ouais. en moins. Je te dirais, mon plus gros client, c'est nous. C'est Brandon ouais. et moi, là, autant pour l'achat que pour la vente. J'ai encore un petit bassin d'investisseurs, mais qui n'ont plus tant besoin de mes services. Fait que, tu sais, initialement, j'aimais prendre quelqu'un le main dans la main, l'aider ouais. et le mener à optimiser une propriété. Mais ces gens-là, maintenant, volent de leurs propres ailes. Fait que, de temps en temps, je suis impliqué, mais sinon, très peu. Ça se compte sur une main, là, les gens avec qui je fonctionne présentement.
Okay.
Possiblement ma dernière année aussi. Là.
OK. Fait que, on va voir. Essentiellement vers tes ouais. propres projets. Ouais. Cool.
Exact. Puis toi, Brandon, t'es un gars qui sort de l'immobilier aussi?
Non. J'ai commencé dans le... Mes passions, là, plus jeunes, étaient le snowboard, skate, BMX. J'ai été élevé dans le sport d'action. Puis, en 2002, en fait, j'avais 14 ans. Puis, j'ai commencé à travailler dans un skate shop sur la rive sud de Montréal. Puis, j'ai eu la chance d'être très confortable sur un snowboard. Puis, très jeune, j'ai eu des commanditaires. Puis, je me voyais juste faire du snow là, au secondaire. Fait que j'ai fini mon secondaire. Je suis parti à Whistler, puis...
C'est là que tu as rencontré Sean White.
Non, Sean, je l'ai rencontré à Montréal. Il est venu pour une,
un événement.
Il y avait un jeu vidéo avec Ubisoft. Et puis, le Shakedown faisait partie. Il y avait un volet Shakedown dans son jeu. Fait qu'on l'a rencontré là, puis on l'a sorti en ville. Puis... the rest is history. Mais c'est ça. Donc, longue histoire courte, j'étais dans le début d'une carrière de snowboard dans l'Ouest canadien. Je revenais d'un 3 semaines de tournée en Europe avec l'équipe de Rossignol. C'était un de mes commanditaires. Puis en revenant de ce voyage-là, j'ai eu un accident de motocross. Je me suis cassé fémur, rotule, pied gauche, poignet droite, tout seul dans le bois. J'ai passé 16 heures solo dans le bois toute la nuit. Puis j'ai recommencé à ramper le lendemain matin. Puis il y a des bûcherons qui m'ont trouvé, ils m'ont amené à la clinique à Pemberton. Après ça, ils m'ont amené à Vancouver. Puis ça a freiné ma carrière de snow. Fait que j'ai rapidement tombé en affaires. J'avais 21 ans. Je me suis associé avec des chums. On a ouvert un magasin qui s'appelle Empire sur l'île de Montréal. Et l'année suivante, fondé l'événement Shakedown avec un de mes chums, Pat Bernier. Puis, fil en aiguille, acheté une maison pour habiter, ma première maison. Je pense que j'avais à peu près 21 ans. Puis, à 23, mon premier investissement comme tel, j'ai acheté un condo, un petit condo, un 3,5. Puis après ça, on a commencé dans la construction, on a ouvert des bars, des restaurants. Puis là, on s'est, Mathieu et moi, on s'est rencontrés en 2015, comme il disait tantôt. Il avait posté, je pense, un flip, une maison à rénover à Saint-Bruno. Puis c'est notre notaire qui nous a référé. Il m'a dit, va voir, il y a une maison, ça pourrait être un papier flip. Puis c'est là que j'ai rencontré Mathieu. Finalement, on n'a pas closé ce deal-là, mais on s'est associés ensemble, puis on a fait... On a fait 2-3 projets, puis là, on est rendu à au-dessus de 20 projets d'optimisation dans le 6 et plus. Et là, on rentre dans une vague de construction neuve.
Fait que toi, tu as ton chapeau d'entrepreneur général. Ton background a été surtout dans les bars, rénovation ou d'expérience.
À l'époque, il n'y avait pas de bar qui répondait à notre clientèle de sport d'action, les gars de snow, les gars de skate. Il n'y avait rien il n'y avait pas de spot à Montréal où on pouvait aller prendre une bière puis pas se faire chier avec un dress code ou avec des souliers en cuir. On s'est dit, on va ouvrir notre propre place. Puis à ce moment-là, à travers tous les événements et tous les projets qu'on avait, j'avais tout le temps besoin d'un handyman. On était tout le temps en train de construire quelque chose, que c'était pour le Shakedown ou pour d'autres événements, que je me suis associé avec un de mes chums à l'époque. Puis on est allé chercher notre licence d'entrepreneur général. Notre premier client, c'était le bar que j'ai ouvert avec d'autres gars. Puis après ça, on s'est spécialisé dans la rénovation de bars et restaurants, principalement sur l'île de Montréal et sur la rive sud. Puis, à travers ça, Mathieu et moi, on a commencé à faire nos projets. Finalement, les rénovations de bars et restaurants, on a racheté notre partner, puis on s'est concentré uniquement sur nos propres projets d'optimisation. Donc, j'avais ma petite équipe qui faisait nos flips de multi, puis toutes les... J'avais plus de clients, en fait. Là, ça me tentait plus de me...
Dans le fond, les deux, vous revenez à pratiquer pour vos propres projets dans vos expertises.
C'était plus simple, plus payant. Ouais. On pouvait se permettre d'avoir des plus petites équipes, moins lourd comme structure, donc beaucoup plus facile à...
Plus agile à bouger aussi. Absolument.
On le sait, en construction, c'est pas le volume. Là. Souvent, c'est
pas ça qui fait qu'il y a un bonhomme là intéressant. On avait 20 gars, ça roulait à la planche, mais on faisait pas une scène. J'avais pas le bon partenaire. La gestion des chantiers était sloppy, puis... Okay. Beaucoup de pertes à travers ça.
Fait que, vous êtes allé un peu partout en termes d'expérience, pas un peu partout, mais je dis dans des expériences connexes, expériences plus gouvernementales, plus de tripeux de skate snow pour amener probablement beaucoup d'expertise puis de compétences vers l'immobilier quand vous avez démarré ensemble. Est-ce que vous êtes pas rencontré dans le contexte d'Emrex ou vous l'avez
On a fait une des premières cohortes en 2019, 2018.
Puis nous, quand c'est parti, on s'est posé la question à savoir si on le faisait ou pas, mais on était sur une grosse série.
Vous aviez déjà de l'élan.
Je pense qu'on avait comme 7 en main ça, la première année. Puis on a fait cette année-là, puis on s'est inscrit par la suite à la Meurthe. Puis ce bagage-là était juste extrêmement utile.
Oui.
Fait que ça nous a alignés par la suite pour avoir un meilleur plan de match. Ça a été utile, mais l'année qu'on avait faite juste avant...
Chargé.
Chargé aussi.
Cool. Puis arrive aussi l'investissement MB. Vous êtes président, vice-président justement de votre société là, d'acquisition. Vous venez de vendre ou vous allez vendre prochainement votre dernier immeuble là, sur le marché de la revente. Vous allez maintenant quasi exclusivement fonctionner sur des projets de neufs. C'est un peu vers là la ligne de conduite de votre entreprise maintenant. Puis, est-ce que ça se peut que ça devienne un parcours naturel un peu sur les investisseurs où est-ce qu'on commence par un 6, on optimise, après ça, on passe à un 12, on passe après ça à des 24, puis après ça, on dit, c'est cool, on a fait le tour du jardin dans l'optimisation, maintenant, on va y aller plus dans des projets neufs?
Je pense que c'est une suite logique qu'on pourrait généraliser puis dire que plusieurs personnes pourraient tendre vers ce chemin-là, mais c'est pas tout le monde qui va vouloir aller là. Je te donne un exemple d'investisseur à Montréal. Le neuf à Montréal, c'est niché. Là, c'est très difficile. Mais pour des gars de la Rive-Sud qui font de l'optimisation, je le vois dans mon entourage, les gens aspirent à ça.
On a fait depuis 5 ans, on se concentrait vraiment sur l'optimisation. Donc, on achetait, on s'entendait avec les locataires, on strippait les immeubles. C'était des gros flips. C'était pas du cosmétique peinture flottant. Là. On strippait vraiment tout. Puis après ça, on rentrait des nouveaux locataires, puis on revendait. Fait que, comme tu disais tantôt, on a vendu notre dernier bloc usagé le mois passé. C'était un 14 logements sur Drolet, là, sur le plateau. Puis ça a été le 14 logements le plus cher vendu dans, je pense,
au Québec.
Ever.
Vous êtes reconnu quand même pour briser un peu les standards, éclater les plafonds. Là.
On pousse la barre.
On prend des risques aussi. Puis quand on rentre dans un projet, que ce soit du neuf ou de l'usager, on s'assure d'être confortable avec le pire des scénarios. Sachant que le pire des scénarios, pour nous, on est confortable avec ça, ben ça peut juste être mieux que ça. Puis dans tous les projets qu'on a faits, surtout dans la réno, c'est des boîtes à surprises. Tu ne sais jamais dans quoi tu t'embarques. Tu penses que tu sais, mais tu ne sais jamais. Il y a des projets qui nous ont coûté 6, 7, 800 000 de plus. Il y en a un qui a coûté 1 million de plus en travaux. Ben, heureusement, on avait le buffer de prévu à travers ça. Puis le marché nous a souvent donné raison. Ça prend, règle générale, un an faire ces flips-là. Ouais. Puis dans les deux, trois dernières années, le marché a explosé. Pas juste au niveau des coûts de construction, mais au niveau des loyers. Fait que ça se rattrapait vers la fin, quand on arrivait pour vendre. Ça se rattrapait. Fait que à date, pas de perte. Puis il y a eu certaines déceptions, mais nos scénarios décevants ont quand même été très bien.
Oui, c'est ça. Puis je sais pas si c'est ça justement qui amène souvent les gens à passer de l'optimisation use vers le neuf, comme on disait, dans la tangente naturelle. Mais en même temps, je me rappelle une discussion qu'on avait eue cet été, Matt, tu me disais, le neuf, c'est de l'optimisation, mais pré-projet, tu sais. Fait que dans le fond, c'est pas une dualité. C'est pas facile ou c'est pas un chemin très, très simple. Le neuf, il y a quand même une bonne...
Je pense qu'il y a plus d'optimisation à faire dans le neuf que dans l'usager. Mais c'est parce qu'il y a tellement de volets, il y a tellement d'aspects, il y a tellement de choses où tu peux changer une virgule, changer un mur, changer un paramètre, puis ça influence genre drastiquement ton projet. Puis ça revient à ce que Brandon disait. Je veux dire, dans l'usager, malgré le fait qu'il peut y avoir de grandes surprises, je pense que c'est plus prévisible que du neuf. Le neuf, il y a une grande période de temps entre le moment où tu trouves le terrain, tu commences à cruncher pour la première fois tes chiffres, puis le moment où tu as un immeuble qui est élevé, stabilisé, avec des locataires en place. Hein. C'est pas des mois, là, c'est des années là, dans la majorité des projets. Fait que ça a une énorme incidence, puis ça, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Dans l'usager, oui, OK, tu ne sais pas ce qui va se retrouver derrière le mur, mais on était capable quand même de le prévoir ou de
ton time frame est plus facile, ton échéancier est beaucoup plus facile à établir.
In-out est plus facile.
Puis comme tu disais, tu sais, les plans, les gens pensent souvent que le neuf, c'est d'aller voir l'architecte puis qu'il va dire là-dessus, bâti un 18, puis voici les plans, alors que toute la game est de les challenger, de les virer à l'envers, de tasser les murs.
Si on se fiait aux professionnels qui nous envoient un premier jet de plan, la majorité des projets seraient
financièrement,
c'est des projets où on a 7 versions, là, à peu près. À un moment donné, c'est gossant là, pour le staff en place. Là. Puis il y a du temps qui passe à chacune des corrections, des ajustements. Finalement, tu arrives avec ta 7e version, tu la présentes à la ville, puis ils te demandent de retrancher quelque chose qui fait en sorte que ce que tu avais en place est complètement chamboulé.
Tu repognes le serpent, puis tu redescends.
Puis arrive aussi la vision de l'entreprise où ce que maintenant, dans vos nouvelles constructions, vous essayez beaucoup d'offrir des logements abordables. Puis, tu sais, on en a parlé en pré-entrevue, tu sais, je disais, est-ce que c'est un pari risqué aussi d'aller vers du logement abordable? Parce que, tu sais, il y a vraiment plusieurs, justement, articles qui parlent que l'abordabilité des loyers, c'est plus difficile, que les méchants propriétaires font juste optimiser leur immeuble pour faire de la rénoviction, etc., etc. Puis vous avez une tangente complètement différente aussi, où est-ce que vous voulez sûrement avoir une plus grande stabilité avec votre clientèle aussi en offrant des logements abordables, mais aussi de conserver une rétention de clients beaucoup plus longue que d'avoir à faire du changement récurrent. Puis ça, je trouve ça très inspirant parce que très peu d'investisseurs se lancent dans ce type d'optimisation-là ou dans ce type de construction-là.
Mais, tu sais, on est passé par ça, puis tu sais, tu parlais rénoviction, là, on a toujours essayé de faire les choses différemment, mais je pense qu'on les a toujours bien fait. Je veux dire, j'ai jamais expulsé un locataire en soi. Nos immeubles étaient vraiment, là, vraiment, vraiment pétés. Là. Je veux dire, c'était dû
c'est sans naturel, quoi ça tombait. Oui, là.
Fait que quand on est rentré dans des projets, là, je reprends, mettons, Drolet. Drolet était bien placé, se tenait quand même bien. Mais cet immeuble-là était répertorié dans les immeubles les plus crabes de Montréal, tu sais, dans un registre.
Ouais.
fait que n'empêche qu'il y avait d'énormes problématiques. Puis lui, c'était toute la mécanique qui était à revoir au grand complet. Les logements étaient bien placés, tu avais une belle clientèle, mais je veux dire...
Il n'y a rien qui n'a pas été fait.
Non, c'était farfelu parce que cet immeuble-là, quand on l'a acheté, je pense qu'en partant, c'était pas à rabais. Là. C'était 2,8 millions pour un 14 sur le plateau. Nous, on est rentré là et on l'a strippé. Déjà là, je veux dire, c'était pas un prix d'amis, c'était pas un prix d'une coquille vide.
Il y a déjà beaucoup de chiffriers qui explosent, puis beaucoup de monde qui sont plus là.
Et même nous, on était comme, oui, je suis 2.8, OK, on met l'appel dedans quasiment.
Ouais.
C'était, tu sais, ça prenait des couilles.
Ouais.
Puis Matt et moi, on carbure au défi.
Ouais.
On aime ça, réaliser des projets de façon un petit peu différente des autres. Ouais.
En même temps, il faut que tu aies la confiance de c'est quoi la porte de sortie.
On n'a pas froid aux yeux. On est...
On serait pas capable de faire quelque chose de redondant. Non?
Ben non, c'est ça. De faire du copier-coller, là, mettons, d'acheter un terrain et faire du jumelé pendant 3 km, là, c'est pas nous. Là,
c'est mais vous avez quand même une rigueur dans votre analyse, c'est votre façon de faire. Non, 100%, je veux dire, c'est 100%. Pas parce que vous êtes game, puis let's go all-in, puis on verra par après ce qui va se passer.
On a la capacité de faire nos analyses très rapidement au niveau des coûts pour les travaux ou les constructions et l'analyse des valeurs locatives, puis le potentiel, le upswing, là, de pouvoir, bon, mais on a un loyer à tel prix, on va être capable, un coût rénové, d'être à un prix X. On a la capacité d'analyser ça en. Écoute, c'est une question de minutes dans certains dossiers. Dans une heure, là, on le sait si le projet est viable ou pas. Après ça, on fonce.
Puis ce qui vous permet de faire des fois, c'est que le potentiel locatif, vous arrêtez pas nécessairement. À la moyenne ou est-ce que la plupart des gens
vont le topper? Non, on le pousse, là.
C'est ça, donc vous êtes capable de payer plus ou d'en mettre plus, de mettre la gomme.
Je reviens au plateau. Je veux dire, cet immeuble-là, sur les 14 logements, il y en a 12 locataires qui sont partis. Puis c'était évident, ils le savaient. Là, l'immeuble ne fonctionnait pas bien et n'était pas viable. Mais les deux derniers nous ont tellement écœurés. Puis là, ça commençait à être très fort, là, ce qui est Rénoviction à Montréal à ce moment-là. Global était sur notre immeuble en train de filmer. C'était la folie. Puis ces gens-là, on était rendus à 25 000 de dédommagement, puis criaient sur les toits injustice.
Oui.
Je veux dire, c'est pas un petit montant. C'était des gens qui étaient quand même déjà aisés. Ça allait déjà bien, là. C'était pas des gens qui étaient mal pris.
Non, je comprends.
Puis moi, ça m'a vraiment écœuré de mal paraître pour ce projet-là, alors qu'on faisait une différence. L'immeuble est impeccable, de toute beauté. Les voisins capotaient. Tout le monde
l'intention était bonne, puis la façon de faire était bonne.
Oui, puis ça a fini à 40 000. Là. Ouais. Puis on n'avait pas le choix. Ouais. Ça a été notre dernier projet. Ça le dit, ça fait chier donner 40 000 à quelqu'un là, pour sortir de son logement, alors qu'on est là pour faire du bien. Oui, par la bande, on fait de l'argent. Il n'y a personne qui irait faire un projet s'il n'y avait pas de added value ou de profit à la fin. Je veux dire, n'importe quel entrepreneur qui est en affaires, que ce soit en immobilier ou un autre business, on est là pour faire de l'argent, mais il y a moyen de le faire
intelligemment, sans être au profit des autres.
Faire chier tout le monde.
Ah, c'est ça. Puis je pense que c'est ça qui va aussi amener de plus en plus de gens de l'optimisation use vers le neuf pour se dégager un peu de ce risque d'affaires-là, mais c'est en contrepartie du parc qui va revenir dans l'état de plus entretenu, plus
ça, c'était,
plus
c'était un peu la goutte qui... Déjà qu'on s'est aperçu qu'en faisant ces projets-là, il y en a certains qu'on a gardés, puis dans le début, quand on s'est rencontrés, puis on s'est aperçu que ces immeubles-là, dans 20 ans, allaient être le fun et allaient générer des sous, mais... annuellement, ça générait rien comme cash flow. Puis nous, on voulait des immeubles qui généraient du cash flow. On s'est mis à vendre notre usager pour le mettre dans le neuf, parce que le neuf génère réellement du cash flow annuellement.
Ouais. Parce que tes charges sont plus basses. Puis ton...
Ben c'est amorti sur plus longtemps. T'as pas de travaux, t'as un fonds de prévoyance, là, mais la réalité, c'est que t'as très peu à injecter si t'as une bonne clientèle, t'as des bons locataires.
Puis surtout, si tu contrôles bien ta construction initiale, là, tout se passe là aussi. Là.
Et comme Matt a dit tantôt, c'est la différence entre l'usager et le neuf prend beaucoup de temps à préparer. Et on s'est aperçu, on a avalé la pilule que... On ne peut plus aller vite. Surtout dans le contexte de la COVID, il n'y a plus rien qui va vite. Il faut prendre le temps que ça prend. Puis, ce temps-là qui est bien optimisé sur papier va éviter beaucoup de problèmes en
dans le futur, définitivement. Tu sais, Kevin, qu'on savait que ça allait être le fun. On a 45 minutes de contenu. On a quasiment topé la moitié juste dans les présentations. C'est vraiment cool. On est obligé d'aller en pause. Vous désirez avoir plus d'informations sur la bulle immobilière, écoutez-nous tous les samedis, 11h. Sinon, vous voulez écouter tous les podcasts. C'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Mais encore plus simple, allez sur notre site jean-françois-morin.ca.
96.9 CJMD Lévis.
Les Taizones de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald sont à la recherche de personnes fun et dynamiques pour compléter leurs équipes de feu. Bénéficie d'horaires flexibles, rabais sur tes repas, partage équitable du pourboire et surtout une tonne de plaisir. Tyzone, un emploi avec du kick. Envoie-nous ta candidature sur tyzone.ca.
Vous pensez tout connaître? Défiez Diable à l'émission L'Enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 969fm.ca/quiz. Répondez aux questions de connaissances générales et gagnez de l'argent. Tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes de CJMD 96.9.
C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
CJMD 96.9. Les seuls à vous parler en journée, les week-ends.
Kevin, on est de retour à la bulle immobilière, toujours avec nos invités Mathieu Aubry et Brandon O'Down. Écoute, d'investissement MB, parle de logement abordable, puis on en parlait juste avant qu'on rentre en onde. C'est quoi les logements abordables? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est des logements à prix modique? Est-ce que ça veut dire abordable? C'est que c'est pas cher, pas cher, pas cher. Puis tu sais, maintenant, les propriétaires se doivent à nous, effectivement. J'aimerais ça, les gars, que vous nous parliez un peu. C'est quoi les logements abordables? C'est quoi la différence entre un logement abordable et un prix modique ou des logements aussi subventionnés?
Vas-y, Matt. Oui, bien, là, d'un, on parle d'abordable partout. Là. C'est le mot de l'heure. Là. Fait que autant les municipalités, les journaux, les médias, peu importe, là, abordable, abordable, tout le monde veut de l'abordable. Mais je pense que ce qui est nécessaire présentement, c'est des logements moins chers que de l'abordable, puis c'est du subventionné. Là. Les villes crient sur les toits qui ont besoin de logements abordables. Oui, il y en a besoin, mais un logement abordable, présentement, nous, en fonction des financements qu'on a, puis en fonction des paramètres de la SCHL, c'est un logement qui est 10 % moins cher que le marché. Donc, il y a une étude de marché qui est créée, il y a un rapport d'évaluation qui est fait. On va établir qu'est-ce que le prix du marché. Puis nous, en fonction du prix du marché, on nous demande de louer moins cher que le marché. Puis de suivre...
De 10 %
De 10 % Puis on est régi pendant 10 ans par rapport à ça. Donc, on ne peut pas augmenter, mais, malgré le fait qu'ici, on a 5 ans où on peut faire ce qu'on veut. Là, on ne peut pas, puis c'est régi par la SCHL. On est donc limité pendant 10 ans. Ce qui fait en sorte que c'est quand même un bon programme. Puis oui, ce sont des logements de super bonne qualité, similaires aux autres, c'est-à-dire identiques aux autres, mais qui vont être moins chers sur le marché. Puis ça se loue vraiment comme des petits pains chauds. Là. Nous, on a fait un là, dernièrement. On en a levé un à Saint-Hyacinthe. C'est un 16 logements. Ça a pris un mois, puis tout était loué, là.
Et là, tu sais, quand on parle d'abordable, ça ne veut pas dire que vous allez cheaper sur la qualité des matériaux, la qualité de construction, etc.
Parce que le rapport d'évaluation va nous demander, il va regarder des paramètres similaires. Là. Il va regarder un condo identique à combien ça se loue. Puis si lui établit que c'est 1 500 $ ton 5,5, mais on va enlever un 10 % c'est-à-dire 150 $, puis on va te demander de louer à 1 350. Fait que ton logement identique, ça devrait d'être à 1 500 par mois. En le louant à 1 350, tu rends un réel service à certaines familles.
Les gens doivent se dire, ouais, mais pourquoi faire ça? Comme pour le promoteur, pourquoi qu'on ferait ça? Mais l'avantage pour le promoteur, c'est que notre mise de fonds est moins élevée. Ils peuvent financer jusqu'à 95 % jour 1.
La SCHL.
Donc, pour des gars comme nous, ça nous permet de mettre moins de mise de fonds. Donc, lever plusieurs projets. Donc, on gagne en volume.
Mais jour 1, tu parles du bridge.
Jour 1, donc ce n'est pas comme un financement conventionnel que la banque va financer la construction. Et à la fin, on va faire un take-out SCHL. Donc, on minimise le risque du changement de marché pendant la période de construction. Et la SCHL va rentrer jour 1 avec une attestation et un cap sur le taux d'intérêt qui va être... octroyé à la fin du projet.
Juste une petite parenthèse, c'est ça. Ils vont financer de 85 à 95, mais le 95, présentement, laisse miroiter. Là. Ouais. Mais nous, on a fait 5. On a eu 5 attestations. C'est pratiquement impossible.
Plus qu'on a eu, c'était 91.
Puis ce qu'on s'est fait dire aussi, là, c'est même eux, ils ne comprennent pas là, comment ils peuvent arriver jusqu'à 95.
Puis tu sais, quand on parle de logement abordable, il y a le rapport d'évaluation, il y a le financement qui devient intéressant aussi. Puis vient... un mot similaire, modique. C'est quoi la différence entre abordable et modique?
Bien, le logement subventionné, là, ce logement-là, c'est que le gouvernement va payer 75 % du logement, puis le locataire va payer 25 % de son logement. Ça, c'est en fonction, exemple, de, mettons à Saint-Hyacinthe, c'est avec l'Office municipal d'habitation, c'est avec l'OMH. Eux autres, ils ont une liste d'attente de candidats qui sont déjà comme préétablis, là, déjà encadrés. Puis, on a un projet présentement où on essaie peut-être d'en intégrer dans le projet. Puis, c'est de passer à travers cet organisme-là. Puis, eux vont faire les demandes au gouvernement. Puis, t'es capable d'avoir des locataires en conséquence.
Fait que là, ton loyer n'est pas régi en termes de montant de loyer, mais il est plutôt subventionné.
Non, mais au contraire, il est plafonné. Eux autres, ils ont une liste qu'ils reçoivent à chaque année qui peut augmenter, mais qui augmente vraiment pas beaucoup. Te donner un exemple concret. Aux dernières nouvelles, mettons à Saint-Hyacinthe, une petite unité, là, une chambre à coucher, cette unité-là, l'organisme pouvait aller jusqu'à, mettons, 500, je lance des chiffres, là, mais 580 $. Fait que 580 $, le locataire paye 25 %, puis le gouvernement paye 75 % de ça. Fait que c'est sûr que si tu veux aller dans cette unité-là, dans ton immeuble neuf, je veux dire, présentement, un immeuble...
3,5, ça n'existe pas en bas de 1 000 $.
Je veux dire, t'es dans du 800, 900, 1 000 $, tout dépendant de la gamme de produits que t'as. Fait que je veux dire, d'aller à 580, c'est que tu fais un solide sacrifice, voire t'acceptes que ton immeuble ne soit pas rentable. Mm-hmm. Fait que présentement, les mathématiques ne fonctionnent pas. Le coût des projets, les valeurs des projets pour essayer de rentrer dans ton argent puis de les rentabiliser ne suivent pas ce que le gouvernement est prêt à
financer. Il n'y a aucun promoteur qui a intérêt d'aller dans cette direction-là parce qu'ils ne sont pas viables, ces projets-là.
C'est pas possible.
C'est impossible de les rentabiliser.
Puis il n'y a pas de conditions de financement allégées ou
de suspension
conventionnelle.
De ce qu'on a regardé présentement, on n'a pas vu, exemple, un 50 ans avec un taux d'intérêt plus bas, puis on n'a pas vu ça.
Ils ne contrebalancent pas.
On n'a pas vu ça.
Puis ça, c'est parce que c'est des logements neufs, parce que, mettons, vous en avez probablement loué, puis moi j'en loue dans l'IOS avec l'OMH. Là, si je demande 900 pour mon 3,5, ils vont arriver, puis c'est ça qui est disponible, ils vont le prendre. Après ça, évidemment, ils vont régir les augmentations chaque année, mais ils ne m'obligent pas à louer à leur locataire moins cher. Ils suivent ce que moi je présente, mais dans le neuf, ils suivent des barèmes. C'est ça que tu veux
exactement.
Dire,
moi, c'est ce qui m'a été présenté.
Puis c'est quand même, le logement à prix abordable ou même dans le prix modique, c'est quand même un pari risqué. Là. Fait que, il n'y en a pas beaucoup d'entrepreneurs. Puis le 10 % moins cher que tu vas louer, ben si on le regarde mathématiquement, c'est que ton immeuble va avoir une optimisation de 10 % plus bas que qu'est-ce que tu devrais avoir avec ton revenu brut aussi, ton revenu brut à la fin de la ligne aussi.
Tu as accepté une perte de valeur de 10 % sur ton immeuble.
Mm-hmm. Fait que,
nous, c'est le pari qu'on prend, puis on est confortable avec ça. Mais ça nous permet de faire deux immeubles versus juste un. T'sais, un financement conventionnel de construction, ça va te prendre 25 % de mise de fonds.
Un minimum.
Alors que là, si on a un financement de 88-90 %, on est capable de lever deux projets en même temps.
C'est ça.
Fait que nous, c'est notre modèle.
Puis les braquettes, la SHL font du sens. Parce que tu disais tantôt qu'il y a un évaluateur qui passe. Donc, c'est pas, mettons, à Longueuil ou peu importe où. À Saint-Hyacinthe, un 4,5, c'est 1 500. C'est selon le projet que tu me présentes et les plans que tu fais, la SHL mandate quoi un évaluateur qui va dire des... semblable, se loue tant, toi, baisse de...
Eux autres ne mandatent pas quelqu'un, mais tu te dois prendre une firme qui est
accréditée.
OK.
Ouais.
Fait que lui, il va chercher les comparables le plus
une
possible.
Une évaluation agréée, comme dans n'importe quel autre projet. Ils vont sortir les loyers du marché. Puis nous, on est obligé d'être à 10 % en bas de ça.
OK. C'est
bon. Pendant 10 ans.
Ouais, c'est ça. Ils régissent aussi. Là,
ah, il y a des inconvénients. Là.
Mm-hmm. Sauf que, si dans l'optique de détention de l'immeuble est au-delà de 10 ans, bien, l'avantage que tu as aussi, c'est que le 10 % que tu n'as pas eu pendant les 10 premières années, tu vas avoir un gap dans 10 ans aussi sur la valeur future aussi. Là. La valeur de l'immeuble
Ça va être difficile de rattraper le marché dans 10 ans aussi. Là.
Exact.
Parce que là, tu n'as plus les paramètres de la
région. Ça fait aussi que nos locataires, il y a moins de turnaround.
Ouais.
Nous, il y a des frais rattachés à un départ. C'est-à-dire, on a un agent de location à payer, on a assurément des travaux à faire dans le logement avant de le remettre sur le marché. On a calculé cet argent-là. Oui, on est à 10 % mais notre turnaround est beaucoup moins élevé. Puis nos coûts d'entretien au turnaround est non existant. Donc.
Un logement neuf est neuf la première année.
Après ça,
l'année d'après, si le locataire part et tu veux relouer, là, tu as plein de comparables, tu as plein de produits, tu as une bonne compétition présentement dans le marché. Fait que tu te dois de mettre du temps, de l'énergie puis un agent de location sur le dossier pour retrouver un nouveau candidat.
Puis là, même si c'est plus le même locataire, tu es tenu d'être encore 10 %. Mettons, toi, dans ton projet, il quitte après deux ans.
Ouais.
Tu as encore un 8 ans à faire.
Ouais.
Puis là, là, mettons, dans la pratique, comment ça se passe? Si tu reloues ton logement dans 3 ans, c'est qu'il y a un évaluateur qui revient dire que c'est ça le marché. Tu sais.
Annuellement, on doit soumettre le même rapport. Okay. Puis on doit démontrer que notre rent roll est à 10 % en bas de ça.
En bas de ça. Fait que tu as des comptes à rendre à la SCHL pour avoir ces conditions.
Oh, ouais.
Okay. Puis est-ce que nécessairement on peut penser que ça aide au niveau politique, au municipal? Ou ça amène-tu un projet? Ça, on l'enveloppe-tu mieux?
Certaines municipalités sont très ouvertes, sont contents de voir qu'il y a des promoteurs qui poussent dans ce sens-là. Dans certains, on a un dossier à Saint-Bruno, sur la rive sud de Montréal, où que malgré le fait qu'on essaie de faire passer un projet de 19 logements abordables,
ça dérange.
Ça dérange pour des raisons qui tiennent pas du tout la route.
Puis ça se peut-tu aussi que, tu sais, c'est non conventionnel, on va se le dire. Il n'y en a pas beaucoup dans ce créneau-là.
Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis nous, on est capable de le faire parce qu'on est deux. On n'a pas une giga infrastructure. On n'a pas. On a une comptable à l'interne. On a deux menuisiers à temps plein. Le reste, c'est toute la sous-traitance. Notre structure, elle est très lean. Puis ça nous permet de dire bon, ben oui, OK, on va prendre ce hit-là sur l'immeuble, mais on va être capable d'en rentrer deux. Deux immeubles dans l'année pour, au lieu de
on s'en prend sur le volume. Puis, tu sais, mettons pour des investisseurs externes qui n'ont pas nécessairement regardé le programme, comme moi, je ne l'ai pas épluché, le programme de la SCHL abordable, mais ce qu'on entendait dire, c'est que c'était pratiquement impossible d'atteindre leur cible. Mais à part le 10 %, c'est-tu plein d'autres demandes qui sont faites?
Il y a d'autres trucs, là, fonds de prévoyance qui
sont forcés,
un peu plus élevés.
Mais je vais dire, en toute franchise, c'est une crise de bonne affaire aussi. Là. Qu'un fonds de prévoyance forcé.
Oui, c'est juste logique. C'est juste logique.
On devrait même le faire pour nos maisons, de toute façon.
C'est ça, fait qu'il n'y a rien qui est illogique ou qui est très difficile, outre le 10 %, c'est le plus gros.
C'est pas illogique, ça va à l'encontre de ce que tous les gens font présentement.
Puis, tu sais, la problématique aussi, c'est que les gens vont le voir comme si c'était des bâtons dans les roues tout le temps.
Ouais.
Parce que c'est pas facile faire du logement abordable. Vous avez des embûches, par exemple, qui vont devenir un petit peu plus contraignantes au niveau du type de produit, au type de projet, de quel délai, etc., etc. Puis tout ce que vous devez faire en gestion supplémentaire par rapport à ça. Puis c'est pour ça que moi, je vous avais dit, Crème, c'est pas un pari risqué, mais tu sais, vous êtes des gars qui sont quand même super allumés dans qu'est-ce que vous faites. Vous êtes des gars qui contrôlez aussi vos paramètres. Là, tu sais, vous n'êtes pas non plus des initiés qui débutent dans l'immobilier. Moi, je trouve ça franchement là, impressionnant qu'est-ce que vous faites parce qu'il n'y a aucune nanane qui est donnée pour ça. Non, là.
Si on peut faire une petite différence là-dedans, puis on l'a vu, là, notre clientèle, écoute, les logements sont super beaux. Là, les derniers qu'on a livrés, là, c'est hyper contemporain, voire très peu de logements de ce style-là là, à Saint-Hyacinthe. On est sur le quartz, mécanique noire, plomberie noire. C'était très moderne, puis on était capable de livrer ça en abordable. Fait que les gens
fait que vous ne chipez pas, tu sais, vous ne chipez pas pour autant.
Puis même, on en met un petit peu plus dans certains cas.
On a toujours voulu se démarquer.
Le projet que Mathieu y parle, c'était un 16 logements, puis on a loué en dedans d'un mois. On n'avait même pas mis le toit de fait, puis il était déjà loué. Là. Fait que c'est un projet qui se loue super vite.
Puis, j'aurais peut-être une petite question technique, mais tu disais tantôt, SCHL va arriver à 88, 90, 91. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont... T'sais, dans le fond, c'est quoi les critères qui fait que son temps de 85-95?
C'est un
chat.
C'est SCHL, c'est Dieu.
C'est Dieu. Fait qu'ils t'arrivent et disent... Aujourd'hui, c'est 88, c'est Mathieu Brandon.
C'est ça. On a quelqu'un qui est capable de verbaliser, de justifier et de fighter avec eux autres. Fait que parfois, ça peut être 87 puis ça finit à 89. Ou...
Okay.
Mais tu sais, c'est des batailles éternelles. Je veux dire, tu peux avoir le financement, mais pas le taux. Tu peux avoir le taux ou pas le financement. Ouais. Tu peux avoir... Fait que c'est de la négo.
Mm-hmm. Okay.
Et on a quelqu'un pour ça là, qui est hautement qualifié. Là.
Puis tu sais, arrive aussi la clientèle. Puis tu en as parlé un peu tantôt, Brandon. Tu disais aussi que la clientèle, c'est une clientèle beaucoup plus, je ne veux pas dire fiable, mais plus fidèle, si on veut. Ils vont demeurer plus longtemps, vont prendre soin des logements parce que justement, il y a un loyer abordable. Puis qu'ils savent qu'habituellement, le loyer à 1200 serait généralement 1400$. Fait qu'ils vont en prendre soin, puis ils vont s'assurer d'être présents. Ils vont assurer de faire des suivis s'il arrive quelque chose sur l'immeuble pour faire en sorte qu'il n'y arrive pas aucun problème avec ça. Là.
Puis dans tous les cas.
Ils ne mettront pas de travail non plus parce qu'ils ne veulent pas perdre l'opportunité d'être dans un beau logement à prix moins.
À prix abordable. C'est quand même super intéressant, les gars. Moi, je vous lève mon chapeau pour ce que vous faites parce que c'est impressionnant. Puis surtout que très peu d'investisseurs ont aussi la mission de vouloir offrir des logements de qualité au détriment du cash au bout du compte. Là. Souvent, on est toujours cash on keys. Le cash flow is king, puis etc.
Ouais, mais là, à un moment donné, 5 000, 10 000 à la fin de l'année, c'est...
Mais,
c'est quoi,
là? Puis, mais très peu sont là.
Je sais.
Vous visez le volume et le long terme. Donc,
exact. Oui, puis le plaisir. Le plaisir à faire quelque chose, que ça soit beau, que tu démarques, que ça soit différent.
Tu dis le plaisir, c'est nécessairement aussi parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça, du logement abordable. Donc, vous êtes encore en train d'essayer d'éclater des... aller d'un terrain qui n'est pas défriché.
Quand on a commencé à faire de l'abordable, même à l'interne ou à CHL, ils ne comprenaient pas le produit.
Vous avez aidé à roder de ça.
C'est pas mélant. La seule personne qu'on connaît qui en fait, c'est notre courtier. Ouais. Notre courtier en a un, puis nous. Là, je pense qu'il y en a d'autres entre-temps, mais...
Ben, même eux, là, ils connaissaient pas tous les paramètres, puis le courtier posait des questions, on n'avait pas les réponses. On a aidé la SCHL à mieux comprendre le produit qu'il offrait. Il n'en parlait pas de ce produit-là.
Il était mal présenté, mal vendu.
Mal packagé. Sous-utilisé.
Et là aussi, le premier projet qu'on a fait, ça a pris 7 mois et demi pour avoir une attestation. Le deuxième, 5 mois. Le troisième, comme 3 mois. Puis le dernier qu'on avait soumis, Farnham, je pense, a pris un mois et demi.
OK. Les délais s'améliorent.
Puis ça, c'est cool.
Les délais, oui, mais à travers ça, je veux dire, Mathieu Brandon sont peut-être connus, reconnus quand on amène un dossier. Ils disent, OK, parfait, eux autres, on a déjà vu passer un dossier. Puis fine, parfait, on va l'étudier.
Il n'y a pas beaucoup de promoteurs qui rentre à la CHL pour ce genre de produit-là. C'est sûr qu'ils en profitent pour quand il y en a des promoteurs qui spécialisent là-dedans.
Comme sur les groupes Facebook, membres fondateurs, mais là, vous avez cette carte-là à l'interne.
À l'interne de la CHL.
C'est les gars qui nous ont aidés à le roder. Il faudrait leur répondre.
C'est quand même super cool. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis, 11h. On tient à vous remercier d'être présent avec nous. Il nous reste un bloc juste après la pause. Il faut rester avec nous pour savoir... Qu'est-ce qu'il y en a? Tu viens de lancer le mot Farnham. Là, je veux te poser des questions là-dessus. Restez avec nous, on revient.
Hey yo, what's poppin'? Ici Skies de Rap Academy. Vous écoutez l'Alternative Radio, CJMD 96.9.
Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 Boulevard Guillaume Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulle.com, le joyau du Vieux-Port de Québec, l'Hôtel 71. C'est l'option originale pour une Saint-Valentin soulignée de la meilleure façon qui soit. Un séjour dans cet hôtel, boutique, primé, est conçu d'emblée pour raviver n'importe quelle flamme. Laissez-vous dorloter par l'ambiance enivrante de notre hôtel, par la cuisine italienne du restaurant Mato et émerveillez-vous du Vieux-Québec. L'Hôtel 71, voyagez en première classe chez vous. Informez-vous sur nos forfaits. En passant, le Mato, référence en cuisine italienne à Québec, bientôt à Lévis.
Vous pensez tout connaître? Défiez Diable à l'émission L'Enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 969fm.ca/quiz. Répondez aux questions de connaissance générale et gagnez de l'argent. Tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes de CJMD
969fm.ca.
Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Vous désirez vendre, vous désirez acheter, n'hésitez pas, contactez-nous directement. Puis, je suis toujours avec mon acolyte Kevin Filion avec Plan de Match Renault. As-tu encore plusieurs projets? Est-ce que tu as rencontré nos courtiers récemment encore?
Bien, tranquille un petit peu plus sur les courtiers dernièrement, mais je suis allé voir deux investisseurs hier à Montréal qui faisaient des projets d'optimisation puis de dossiers d'assurance. Fait que je trouve ça cool d'aller voir justement toutes sortes d'investisseurs puis de les accompagner dans la portion investissement, analyse, coût de projet, budget, toute l'optimisation, les matériaux. Vraiment trippant.
Puis aujourd'hui, on reçoit le président, vice-président d'Investissement MB, Mathieu Aubry, Brandon O'Down. Puis on parle de plein d'affaires qui sont super intéressantes. Ça va être un de nos coups de cœur aussi au niveau de nos émissions. Une des choses que tu as parlé juste avant la pause, Mathieu, c'est on a un projet à Farnham. Farnham, crime, c'est quand même pas à côté, là. Explique-nous, c'est quoi les projets? Explique-moi qu'est-ce qui s'en vient à Farnham pour vous autres.
Farnham, initialement, tu sais, petite parenthèse, il y a bien du monde qui disent qu'il n'y a rien sur Centris. Là. Puis nous, une bonne partie de nos projets, on les trouve sur Centris. C'est juste qu'ils sont parfois pas bien présentés ou il faut trouver quelque chose d'autre, gratter un peu, ainsi de suite.
Surtout mal analysé.
Ouais.
Ouais.
Initialement, on proposait un terrain pour 32 logements sur ce site-là. Puis, regarde un peu ce qu'il y en a. Je trouvais la grandeur du terrain intéressante. Je trouvais que le layout qui avait été proposé était peut-être pas efficace. Fait que commence à jouer un peu avec ça. Puis finalement, d'après moi, il rentre pas mal plus que ça. On se rend compte aussi qu'il y a un petit 4 logements qui est à côté, qui peut être greffé à ça.
Alors, je décide de me déplacer à la municipalité, rencontre avec le service d'urbanisme là-bas, rencontre grand bras ouverts, belle vibe, ça a pris comme 5-10 minutes, je suis ressorti de là, ouvert à peu près tout, favorable à de beaux projets. Fait qu'on est reparti de là, déposer un offre d'achat, puis on a commencé à gratter là-dessus, puis à pondre un projet, puis tu vois...
Fait que là, c'est les retours aux sources, là. Tu sais, tes premiers investissements avec j'achète le plus gros que je peux.
Ouais, ben, ça a toujours été ça. Toujours de faire le plus gros avec ce qu'on peut. Fait que commence à avoir des versions qui rentrent, puis on est dans du 60, 65. Je me souviens plus trop de la première version, mais il y avait quand même pas mal de logements. Et puis, pas vu le site encore, là. On se déplace par la suite pour voir ce qu'il y en est, puis tomber en amour. Parmi tous les projets qu'on a, c'est le site que je trouve le plus intéressant, malgré le fait que ça soit, tu sais, je veux dire, c'est Farnham. Farnham est une petite ville négligée de la Montérégie, voire on est à la limite de la Montérégie, début de l'Estrie, partage même, je pense, au niveau de la santé, une autre limitation géographique. Fait qu'en tout cas, ben nébuleux comme situation géographique. Mais petite municipalité de 8000 habitants, puis nous, on est là à parler d'un 60 logements avec ascenseur, stationnement souterrain, quelque chose de... Ouais, complètement disparate, là. Mais le site, je veux dire, on est sur un cul-de-sac. Au bout de la rue, c'est un parc linéaire. On a des cascades, des rapides. On a un pont qui traverse au-dessus. On a une fontaine au beau milieu, un parc impeccable avec une vue imprenable. Puis sur le site, t'entends les cascades.
Tout ça au centre-ville de Farnham.
Ouais. Puis là, c'est une distance de marche de tout ce que tu veux. Tout ce que tu cherches comme service, là, tu les as à une distance de marche. L'immeuble qui est juste en façade de nous, c'est une SAQ avec des bureaux de professionnels qui est flambant neuf. Bref, super de belle image, ça paraît super bien. Enchanté de ça, pris des photos 3D, tout ça. Puis on commence le projet, on fonce. On s'est rendu compte qu'à travers ce qu'on achetait, il y avait une partie du parc que la ville occupait, qui était dans le fond le site sur lequel on planifiait construire. Fait que dans le fond, on est en train de construire notre 60 logements sur le parc de la ville.
La ville, OK.
Parce que la ville, avec le temps, a comme... Ben, pas empiété, mais je pense que l'ancien propriétaire a peut-être pas pris son, sa parcelle. Mais bref, c'est le parc.
Fait que là, tu penses à prescription?
Non, on l'a offert à la ville.
Okay. On l'a cédé
à la ville, ouais. En échange de comme dérogation dans les discussions. Mais de toute façon, c'est une parcelle qui, pour nous...
amenait pas de valeur supplémentaire.
Non, parce qu'on était limité. C'était une bande, tu sais, il y a une bande riveraine, il y avait des limitations géographiques par rapport à ça, fait que c'était quelque chose d'inutilisé. Puis d'avoir un parc qui s'intègre directement à même notre terrasse puis notre jardin, c'est vraiment
c'est un plus. C'est cool, puis qu'est-ce qui fait que rapidement, tu es capable de densifier de 32 qui étaient présentés initialement à aller rapidement à 60-65 dans tes premières
années? On voit des trucs quand même assez funky que, tu sais, je veux dire, on fait même pas à Laval, pas à Laval, mais à Longueuil. Mais tu vois, là-bas, on a eu une dérogation en échange de deux voitures électriques. Fait qu'au niveau des stationnements, on permet de déroger du ratio qui est normalement plus élevé pour un projet comme celui-là. Mais en échange, on va fournir deux voitures électriques. C'est deux voitures communautaires qui vont servir à nos locataires dans le but d'éliminer une deuxième voiture.
Pas une borne, tu fournis une voiture.
Par défaut,
de communauté.
Deux voitures, oui.
Avec une application que les gens vont pouvoir réserver
en ligne.
C'est deux chars brandés off de la Yamaska qui vont être disponibles aux locataires. Ça va faire partie du forfait mensuel du package quand tu vas habiter sur cet immeuble.
Parce que là, je connais pas Fernand, mais tu sais, t'es en marché secondaire ou même quasiment tertiaire. Fait que tu sais, un auto partagé, tu te dis, Colin, c'est-tu un produit que le monde va adhérer à ça? Parce que
tout le monde a son pick-up. Je veux dire, tout le monde va avoir une case de stationnement, mais la deuxième, pour nous, elle est pas possible. C'est pas possible de la fournir. Fait qu'à partir de là, je veux dire, t'as un choix. Tu vas à un autre projet si tu veux d'autres stationnement, tu stationnes sur rue ailleurs, tu t'organises autrement ou nous, on met à disposition aussi une voiture électrique qui va être partagée. Fait que deux voitures partagées.
C'est quand même super cool. Puis ça, c'est super ambitieux. Puis quand on dit « think outside the box », là, tu sais, la boîte n'est même pas écrite. Là. Vous êtes complètement ailleurs.
Ça va être un test pour nous aussi. Là. Ça va être intéressant de voir est-ce que les gens vont réellement s'en servir. On pense que oui. Puis il faut spécifier aussi que ce projet-là, c'est un 100% souterrain. Il n'y a pas de stationnement extérieur. Et ces deux immeubles, c'est un 28 en fond de cour et un 32 en bord de rue.
Il y a un jardin entre les deux.
Un jardin communautaire. On a aussi un gym que tous les locataires des deux immeubles vont pouvoir utiliser. Fait que ça va être à date notre plus gros projet, mais à travers la grosseur en termes de portes, il y a des éléments qui sont un peu sont nouveaux pour nous, là, au niveau du gym, au niveau de voitures communautaires
puis,
aussi. Là.
Puis, tu sais, faites-vous une analyse un peu démographique, dans le sens comme, tu sais, qu'est-ce qui fait que vous êtes confiant qu'un 60 est absorbé dans un secteur de 8000 personnes?
Nous, c'est comment vous travaillez? Oui, on a fait une étude de marché avec Altus. Okay. Initialement, c'est ça, on avait des petites craintes, des petites réticences par rapport à ça. On croyait quand même au projet, on voyait la pertinence juste à cause de la localisation. Honnêtement, je veux dire, ce spot-là, c'est un des meilleurs spots qu'on a jamais vu en fonction de tout ce qu'il y a alentour.
Ouais.
Altus, une belle relation avec le directeur là-bas, m'appelle et dit « Écoute, je veux dire, il croyait tellement au projet puis il souhaitait tellement qu'on le fasse pour démontrer à plusieurs que, genre, certains se trompent. »
Ouais.
Fait que lui, son
c'est data… un statement pour la ville.
Ouais, puis son data, lui, il croyait. Puis pour tous les autres, il souhaitait que ce projet-là se fasse pour créer du data, genre, ailleurs, pour qu'il y ait d'autres projets comme celui-là qui se fassent. Puis courtier hypothécaire, c'est la même chose. Commence à jaser avec et dit « Écoute, la SCHL est là pour… » T'sais, le but de la SCHL, c'est l'accessibilité à la propriété, puis c'est de créer justement des parcs ou des immeubles comme ceux-là dans des milieux où il n'y en aurait peut-être pas.
C'est pas juste sur l'île. Non. C'est pas juste dans les grands centres-villes.
Parce que là-bas, c'était un peu ça. Je veux dire, dans une situation géographique de 20 ou 40 kilomètres, je veux dire, t'as Saint-Hyacinthe, t'as Granby, puis t'as Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais après ça, il n'y a plus rien. Puis des gens qui, à un moment donné, ont une adaptation nécessaire ou une limitation physique, que ce soit besoin d'un ascenseur ou à un moment donné, la mobilité n'est plus là, ben tu as les résidences pour personnes âgées à Granby ou c'est tout, là.
Oui, c'est ça. Tu n'as pas d'option. Puis j'imagine que vous regardez quand même le commercial. T'sais, tu dis que tous les points de service, pharmacie, épicerie, sac, tout ça. Et là, si ça avait été un village où il y a une tabagie, puis il faut que tu t'en aies à 20 minutes pour ton épicerie, probablement que de bâtir un 60.
Tu as des services sociaux, tu as la CLSC, tu as des cliniques, tu as des pharmacies, tu as des supermarchés, tu as de tout, vraiment à distance de marche. Là.
Puis, tu sais, tu arrives dans un nouveau projet, tu sais, hors de ta zone de confort, on s'entend, c'est un gros projet, 60 logements, construction de béton, ascenseur, stationnement souterrain.
Bois-brique.
Tout ton projet, c'est bois-brique, on ne va pas dans le béton, mis à part la
parce que c'est 32-28, excuse-moi.
Exact. Puis on se limite à 4 étages pour pas tomber dans l'autre
gamme. Giclé.
On est giclé. Ben, c'est au niveau de la mécanique, les coûts de construction augmentent de beaucoup. On se limite à 4 étages bois-briques total.
C'est pour ça que vous n'êtes pas dans le béton, à cause du contrôle.
On n'est pas confortable dans le béton, on n'a jamais fait, puis les coûts sont...
Ah oui, vous n'êtes pas confortable, fait que vous n'y allez pas. Wow!
Ça existe. Ça existe.
Quand même, il y a au moins une place que c'est arrivé.
Puis dans un contexte comme ça, on arrive dans une localisation à l'externe de où vous êtes habitué de travailler. Ouais. Vous êtes des gens qui sont posés, vous êtes des gens intelligents, vous faites vos devoirs, vous faites vos analyses de marché aussi. Ouais. Vous ne lancez pas les deux yeux fermés, puis on se fonce dans un projet comme ça. T'sais, ça vous fait pas peur un peu là des projets comme ça, un peu avec la distance, un peu... t'sais, on a entendu des histoires d'horreur là, que l'entrepreneur a profité, que l'investisseur ne soit pas présent sur les lieux, etc. De quelle façon vous gérez ces risques-là?
Bien, on a passé en entrevue plusieurs entrepreneurs généraux pour nos multiples projets. Puis, on est tombé sur un entrepreneur qui, jusqu'à présent, nous démontre une rigueur d'analyse de plan. Et il travaille le projet comme si c'était à lui. Très belle relation, puis on n'a aucune inquiétude là, par rapport à l'honnêteté ou la capacité de livrer le projet dans le budget ou aussi dans les délais.
Puis on a déjà travaillé certaine... avec, c'est ça?
Non, c'est la première fois qu'on travaille avec. Ça a été une référence d'un de nos sous-traitants qui les connaissent bien. On n'est vraiment pas inquiète à ce niveau-là.
Puis
on passe régulièrement quand même faire un tour. Mm. Puis on demande des rapports avec des suivis d'échéanciers, puis suivi de budget, puis ça. Fait qu'on est... Un coup qu'on le remet, le projet, à l'entrepreneur, on part pas dans le sud. Là. On reste proche, pareil. Puis
vous êtes proche de vos chiffres, vous êtes proche du projet, puis vous demandez des rapports, puis vous analysez, puis vous questionnez aussi, là, parce que ça, c'est quand même super important. Là. Hey, tu peux-tu m'expliquer pourquoi qu'on était supposé être rendu là, puis que finalement, on n'est pas rendu à terme?
Il y a un coût à être diligent puis rigoureux là aussi. Mm-hmm. On parle de rapports d'évaluation, d'études de marché, ces choses-là. Ces rapports-là, c'est pas des petits rapports à 1 000 $ ou ainsi de suite. Là. C'est coûteux, c'est onéreux. Les tests de sol, je veux dire, tous les terrains qu'on prend présentement ont des décontaminations, puis c'est des phases 1, phase 2, phase 3, puis c'est complexe, les coûts augmentent, ainsi de suite. Mais dans tout ce qu'on touche, je veux dire, on essaie de faire le plus qui est faisable et qui est possible. Fait que...
J'essaie d'être le plus prudent possible, mais ça arrive qu'il y a quand même des surprises.
Ouais, toujours. Diriez-vous que le plus gros risque, c'est de savoir justement si la location va être au rendez-vous. T'sais, les locataires vont prendre parce que vous le dites, le municipal trip, c'est un flagship, ils sont contents, c'est dans un marché tertiaire, la SCHL embarque, tout ça. Mais t'sais, le plus gros risque, c'est-tu, est-ce que les locataires vont être là? T'sais, si vous avez fait des projets dans des secteurs que vous avez déjà fait, à des prix que vous avez déjà fait, là, vous êtes dans vos pantoufles. Dans ce cas-ci, c'est pas le cas.
Est-ce que vous avez fait aussi des tests de location, par exemple, d'avoir affiché un logement type, par exemple, sur Kijiji dans le secteur pour voir quel genre de réaction, quel genre de demande que vous allez avoir sur un type de projet comme ça?
Il y a une analyse qui a été faite par rapport à ce qui était disponible sur le marché, mais on n'a pas fait de fausses pubs pour voir s'il y avait une réelle demande. Avec les rapports qu'on a,
on est confortable.
On est confortable. Puis la minute que ça a été publicisé par la ville, le téléphone sonnait, puis on a déjà des gens là, qui attendent qu'on fasse notre mise en marché. On n'est pas rendu là encore, mais on n'est pas inquiet.
C'est quand même cool. Puis, tu sais, d'avoir un push de la municipalité aussi qui annonce, tu sais, le stunt, on va avoir un nouvel établissement avec des nouveaux services, etc., etc. C'est sûr que ça vient leverager énormément le projet, autant au terme de notoriété que vous donnez aussi dans la municipalité. Puis, moi, je pense que la municipalité, si vous faites un coup de circuit avec ça, ou peut-être même un grand chelem, vont vous garder dans leur poche en arrière, aussitôt qu'il va y avoir des projets disponibles, etc. Ça se peut qu'ils communiquent avec vous pour réaliser de nouveaux projets aussi dans le secteur.
Je ne sais pas si avec quel invité qu'on en parlait, d'ailleurs, justement, de faire affaire avec des plus petites municipalités. Je ne sais pas si vous le constatez, mais tu dis que tu es bien reçu. En 5-10 minutes, tu as des réponses. Il y a quelque chose qui est agréable dans ce fait que ça donne le goût d'aller développer puis de les suivre. Puis comme vous dites, c'est du donnant-donnant. Après ça, la municipalité fait un certain push, puis vous êtes dans votre offre de location, clairement.
La ville mise gros sur ce projet-là. Ça va être le plus gros projet au centre-ville. Puis, comme tu as dit tantôt, c'est vraiment leur flagship. Ils ont hâte que ça lève.
C'est vraiment...
Quand est-ce que ça
toujours,
lève?
Toujours payant de bien faire les choses.
Exact. Puis ça, pour vrai, là, tu le dis vraiment bien. Tu sais, à combien de reprises que ça m'arrive, moi, avec des courtiers immobiliers qui tournent les coins ronds, etc., puis c'est vite. T'sais, prenons le temps de le faire comme il faut, parce que c'est du quoi, tu n'auras pas besoin de le refaire par après, puis tu vas être sûr que la qualité va être délivrée dès le départ.
C'est moins cher de bien le faire.
Puis de prendre le temps de le faire comme il faut aussi, que d'y aller toujours trop vite, puis let's go, on vit avec le résultat. Là. Fait que ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Puis j'arrête pas de le dire que c'est impressionnant par rapport à tout ça. Écoutez, les gars, on avait quand même une bonne plage horaire pour vous. On pourrait parler avec vous pendant plusieurs heures des différents projets. On doit mettre une fin. Si jamais on veut connaître, je sais, tantôt on parlait de pas de site web, mais si jamais on va avoir des informations sur vos projets ou on veut discuter avec vous, les gars, est-ce qu'il y a possibilité de communiquer avec vous?
Non.
C'est quand même très cool.
Mais tu sais, c'est écrit site web en développement 2030. Si on va sur le.
T'as même pas de site web qui dit que c'est en développement.
Non, quand on lance un projet, on va créer une page Facebook, puis notre agent de location va feeder la page. Mais mis à part ça, si vous avez des questions directes, essayez de nous trouver sur Facebook. Mais à part de ça, non, on est off the radar.
La preuve de la valeur qu'on a eu des avoirs aujourd'hui, là.
Vraiment.
Dur d'y rejoindre.
C'est malade, les gars. Un grand merci d'avoir participé au jeu, d'avoir participé à l'émission. Je vous souhaite le meilleur des succès. Puis, on souhaite avoir une invitation pour aller visiter vos lieux quand que ça sera prêt à livrer. Là, on va être vraiment content
de ça. Un tournoi de pétanque dans la cour arrière.
Cool. On s'en première.
Ça va être malade. Merci, les gars. Passez une belle journée.
Salut.
CJMD 96.9.
À côté de la SQDC sur Président Kennedy à Lévis, se trouvait depuis peu la boutique pour contenter les palais les plus fins. Des grignotines exotiques de toutes sortes y ont été étalées comme dans un fantasme gourmet. Des boissons et élixirs introuvables vous y attendent patiemment, bien rangés au froid.
C'est dedans la maison d'air.
Vos tripes bouffe ne seront plus jamais les mêmes. Sur Snapchat, TikTok, Instagram, ils vécurent heureux et la bédaine pleine.
Entrepreneurs et travailleurs de Lévis ou de la région Chaudière-Appalaches, faites rayonner vos succès grâce au prestigieux gala Les Pléiades. La Chambre de commerce de Lévis vous invite à déposer votre candidature du 11 janvier au 7 mars pour devenir nominé lors du plus grand événement de reconnaissance des entreprises et entrepreneurs en Chaudière-Appalaches. Le concours Les Pléiades célèbre l'excellence et souligne le mérite entrepreneurial dans 11 catégories, dont le prestigieux titre d'entreprise de l'année. Pour inscription ou plus de détails, ccelevis.ca.
pensez tout connaître, défiez Diable à l'émission L'Enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 969fm.ca/quiz. Répondez aux questions de connaissances générales et gagnez de l'argent. Tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes de CJMD 96.9.
Talk, rock, hip-hop, la station Attitude.
Rock et chill tour à tour.
96.9.
La technologie, les jeux vidéo, les films et séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat. Tu mixes ça ensemble, pis ça te donne les technopreneurs.
C'est vrai, c'est mon nouveau cri d'accouplement, ça. Mais
Cool!
Donc, vous allez bien?
Ben oui, ça va bien. Ça va bien, certain.
Les technopreneurs, tous les dimanches de 13h à 15h.
Talk rock et hip-hop, la recette qui lève.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme...
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.